France Musique.
Le journal Olivier Denré, bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Les électeurs israéliens pourront bientôt prétendre à une carte de fidélité pour la quatrième fois en 2 ans. Ils vont devoir retourner aux urnes pour élire leurs députés. Le scrutin devrait avoir lieu au mois de mars. Frédéric Mettezot nous appelle de Jérusalem.
Le Parlement a été dissous car il a été incapable d'adopter un budget pour l'État dans les délais légaux. Mais c'est surtout la dernière conséquence de la division au sein d'un gouvernement brouillon et désorganisé. En mai dernier, le rival centriste de Netanyahou, Benny Gantz, avait accepté de former une coalition exceptionnelle pour lutter contre le coronavirus. Résultat, une deuxième vague bien plus meurtrière que la première, le chaos chez les juifs ultra-orthodoxes et des couacs en série. Depuis 7 mois, les coalisés s'invectivent dans les médias, le Conseil des ministres n'était plus réuni, Netanyahou n'avait pas prévenu ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères des normalisations d'Israël avec les Émirats, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Ce marasme a débouché sur la crise budgétaire d'hier soir, chacun renvoie la responsabilité sur l'autre. Les élections auront lieu dans 3 mois, le paysage politique israélien est totalement émietté, fracturé entre plusieurs clivages, droite-gauche, juifs-arabes, laïcs religieux et plus que jamais pour ou contre Netanyahou, qui sera jugé pour corruption à partir de février prochain, en pleine campagne électorale.
Négocié pendant des semaines et voté il y a 2 jours par le Congrès, le plan de relance de l'économie américaine vient d'être rejeté par Donald Trump, chiffré à quelque 900 milliards de dollars. Ce plan est une honte pour le président sortant, qui considère que les aides financières qui seront accordées aux Américains sont trop faibles. Donald Trump veut que les sommes versées par personne soient au minimum triplées, qu'elles passent de 600 dollars à 2000 dollars, voire 4 000 $ pour un couple. Très énervé, Donald Trump plaît aussi manifestement contre celles et ceux qui l'entourent au quotidien. Il n'a toujours pas concédé sa défaite et plusieurs médias rapportent désormais qu'il est prêt à tout pour s'accrocher au pouvoir. À Washington, c'est une correspondance de Grégory Phillips.
Plus les jours passent, plus Donald Trump paraît isolé et furieux. Le site d'information Axios, généralement très bien informé, décrit un président amer et qui se plaint désormais de quasiment tous ses collaborateurs, qu'il qualifie au mieux de faible, au pire de stupide ou déloyal. Dans son viseur, Mike Pence, le vice-président, que Trump accuse de ne pas être assez combatif, son chef de cabinet Mark Meadows ou encore le secrétaire d'État Mike Pompeo. Selon Axios, tous ceux qui ne le confortent pas dans l'idée que sa victoire lui a été volée ne trouvent plus grâce à ses yeux. Même le patron de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, en prend pour son grade. Il est le premier à avoir quitté le navire. Message envoyé lundi soir par l'assistant personnel du président à tous les élus républicains du Congrès. En fin de semaine dernière, Donald Trump a même, selon le New York Times, lors d'une réunion houleuse, évoqué l'idée de faire appel à l'armée pour renverser le résultat de cette présidentielle. Ses conseillers ont dû lui expliquer que c'était impossible. C'est dans cet état d'esprit que le président sortant part en vacances aujourd'hui à Mar-a-Lago en Floride, normalement jusqu'au 3 janvier.
Quelques dizaines de résidents d'EHPAD seront vaccinés en France dimanche prochain, d'après le ministre de la Santé. La campagne prendra de l'ampleur les jours suivants. Olivier Véran précise qu'en la matière, il n'est d'ailleurs pas question de confondre vitesse et précipitation, et le ministre de rappeler une nouvelle fois que la vaccination n'est pas obligatoire. Un test négatif obligatoire en revanche pour quitter le Royaume-Uni et revenir en France. Les chauffeurs routiers, mais pas seulement, devront le présenter à la frontière pour pouvoir rentrer chez eux. Un accord a été conclu tard hier soir entre Londres et Paris, accord provisoire qui sera revu le 6 janvier prochain. Encore quelques heures de patience et l'on connaîtra aujourd'hui la décision du Conseil d'État s'agissant de la réouverture ou non des salles de spectacle et de cinéma. Certains théâtres se sont toutefois engagés très tôt dans une stratégie de programmation en ligne pour garder en quelque sorte le contact avec le public. C'est le cas de la Comédie Française qui, via sa Comédie d'automne, attire encore aujourd'hui 15 000 internautes en moyenne par jour. Une audience forte avec des conséquences inattendues pour Éric Ruff, l'administrateur général de cette institution culturelle. Éric Ruff est interrogé par Benoît Grossin.
Il y a un paradoxe total et que je vous énonce sans plaisir, mais c'est tellement singulier qu'il faut se le dire. On n'a jamais eu autant d'audience que depuis qu'on ne peut plus jouer et on n'a jamais eu autant de proximité avec notre public que depuis que nous ne le croisons plus. Les pastilles, quand je les ai demandées aux acteurs, plein de fois, sur l'enfance de l'art, par exemple, ils m'ont dit, bah, ça va, je vais pas chez un psy, j'ai pas envie de raconter des choses sur mes parents, etc. Et je disais aux copains, mais c'est pas ce que je vous demande juste de dire quel élève vous étiez. De temps en temps, l'élève ne ressemble pas à l'enfant. Et puis, comment le théâtre est arrivé dans cette équation-là? Et en fait, on s'est tous fait avoir, parce que quand on s'enregistre devant un écran noir, en ne sachant pas exactement quel petit œil regarder, comme une caméra, eh bien, dans cet anonymat-là, finalement, on s'ouvre beaucoup plus que quand on a un visage un peu circonspect, qu'on connaît pas, qui lève un sourcil, puis on est extrêmement attentif à ça. Là, dans l'anonymat total de l'enregistrement, des gens se sont confiés comme jamais. Donc, nous-mêmes, la troupe, on a appris des choses les uns sur les autres qu'on ne pouvait pas soupçonner.
Et puis tout est mis en œuvre pour interpeller dans le Puy-de-Dôme l'homme qui a tué cette nuit trois gendarmes qui intervenaient pour des violences conjugales. Nous en parlions dès le journal de 7h. C'est ce qu'indique ce matin le ministère de l'Intérieur à l'instant, qui précise que les opérations se poursuivent sous la responsabilité du GIGN, une équipe de GIGN donc qui est présente sur place. Beaucoup de pluie sur une large moitié nord. La perturbation va glisser vers le centre au fil de la journée. Le temps sera plus sec sur le sud. Les températures iront cet après-midi de 12 à 20 degrés, Jean-Baptiste.
À demain, 7h, Olivier Denré, bonne journée.
Bonne journée.
Et l'information revient à 13h sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.